France Inter, il est 21h04 et tout de suite Unique en son genre avec Julia Foyce.
Merci Mariam El-Kurdi, on vous retrouve dans une heure pour un nouveau flash. Et nous, ce soir, nous avons rendez-vous avec Miette, petite fille en robe rose, sandales rouges et peur du loup. Ce loup, c'est un projet artistique complet, aussi créatif que nécessaire. Une chanson, un album, une vidéo contre l'inceste que l'on doit à la chanteuse Meylan, unique en son genre. Elle sera notre invitée dans quelques minutes. Mais d'abord, nouveau rendez-vous sur l'antenne de France Inter, suite logique en réalité de notre journée spéciale de soutien aux femmes afghanes, tous les vendredis, grâce à Caroline Pommès. Notre reporter, vous suivrez l'une d'entre elles, l'une de ces femmes incroyables qui ont réussi à fuir les talibans et à venir jusqu'à nous. Parmi elles, il y a Palwasha Achekzai. Elle ne sait pas exactement quand elle est née, sans doute il y a une petite trentaine d'années. Le village est petit à 30 km de Mazar-e-Sharif, la ville à la mosquée toute bleue dans le nord de l'Afghanistan. La mère, Anissa, élève ses 7 enfants toute seule. Le père est mort du diabète il y a longtemps. Palwasha regarde sa mère trimée et elle serre fort, fort, fort ses petits poings. Dans le quartier, elle se bagarre à l'école, elle se bagarre, elle est bonne élève, très bonne élève. Elle sait que c'est par là. La sortie, elle la prendra seule. La porte, pas d'homme dans les pas de ça, non. Ceinture noire de taekwondo, elle leur fait vite comprendre, c'est même pas la peine d'essayer. Dans le viseur, elle a la fac, la liberté, sciences politiques, pour tout casser. Tout reconstruire, évidemment, après. Il y a 5 ans, elle devient community leader, un poste d'élu régional qui lui permet de construire des logements sociaux, d'assainir les rues, d'ouvrir aux femmes la porte des écoles. Alors évidemment, quand les talibans reprennent le pouvoir, elle est sur la liste noire, verte plus exactement. En juin dernier, les militaires l'appellent pour lui dire que son nom est entouré de vert sur les registres. Ce qui l'attend, le kidnapping, le viol, le mariage forcé. Alors vite, elle loue une chambre dans Kaboul et s'y enferme, claque murée.
I cannot explain that how I felt on that time. I was like prisoner at home.
Je ne sais pas si je ressens quelque chose à ce moment-là. Je me sens prisonnière dans cette chambre. Je n'ai pas le droit de sortir, seulement couverte pour voir quelques proches et des amis. C'était très dur. Je ne me sens plus humaine. J'étais juste un corps, sans vie, qui ne faisait que respirer. Et qui ne se rendait pas compte de ce qui était en train d'arriver. Mais un soir, j'ai vu à la télé que les talibans s'étaient emparés de ma vie. Et ce soir-là, je me suis mise vraiment à pleurer.
Pour survivre, Palwasha vend tout ce qu'elle a. Ce qu'elle veut, des visas pour partir à l'étranger. 3 fois, elle se fait arnaquer. Un jour, elle reçoit cet appel. C'est Annabelle, une humanitaire qui, dans le temps, a travaillé avec sa mère. Anissa et Palwasha sont sur une liste d'Afghans à rapatrier d'urgence en France. Alors, le 21 août, mère et fille prennent la route de l'aéroport. La peur au ventre de celle qui paralyse le cœur, de celle qui parasite la pensée. Là-bas, ce qu'elles voient, elles n'en reviennent pas.
To tell you the truth, I didn't have any feeling. I was thinking that I am a dead body. And I said for my mother before I wanted to enter in the gate.
La vérité, je ne ressentais rien. J'étais un corps sans vie. Juste avant d'essayer d'entrer dans l'aéroport, j'ai dit à ma mère, tout peut arriver. Ou on meurt, ou on passe. Tout ce temps-là, ces nuits, ces journées, je ne me sentais pas vivante. J'étais assise à côté des corps d'hommes et de femmes tués la veille. J'avais de la peine pour moi. Je regardais autour de moi et il y avait tellement de femmes qui pleuraient, qui étaient maltraitées par des hommes poussés. Et j'ai commencé à pleurer. Pleurer pour mon peuple, pour cette situation à l'aéroport, pour ces soldats. Qu'est-ce qu'on faisait là? J'ai relevé ma mère, je lui ai dit, arrêtons de nous mettre en danger et rentrons.
Au bout de 3 nuits, au bout de 3 jours d'attente, retour à l'hôtel à nouveau, attendre à nouveau, espérer une nuit de plus et c'est la bonne. Prise en charge par les Américains, Palwasha et Anissa décollent enfin, une étape à Dubaï et puis Paris. On est le 25 août, encore 10 jours de quarantaine et puis enfin l'air libre, le vrai. Sur les quais de Seine, mère et fille se promènent et là, on danse et là, on rit.
I really remember those nights. There were much more people, and they had guitar and also DJ.
Je me souviens vraiment de ces soirées. Il y avait beaucoup de monde. Des gens qui jouaient de la guitare, des DJ, ils dansaient, ils chantaient. Ils dansaient en couple. Il y en avait plein le soir, au moment du bonsoir. Si tu ne voulais pas danser, ton corps ne pouvait pas s'empêcher, ton esprit non plus. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti à nouveau des choses. J'ai retrouvé mes émotions, mais elles étaient toutes neuves et agréables. Ça a lavé ma tête et j'ai pu à nouveau me faire des plans pour l'avenir. J'ai adoré Paris.
Palwasha Cheksai adore Paris, mais c'est à Aubais qu'elle atterrit mi-septembre, là qu'elle vit, désormais, petit village de 3000 habitants, quelque part entre Nîmes et Montpellier, entre les vignes et les oliviers. Aujourd'hui, elle cherche un appartement à Montpellier. La ville lui manque, l'activité. En attendant, elle apprend le français et lire, écrire, compter, jusqu'à 15 maintenant, elle sait. La semaine prochaine, Caroline Pomès nous donnera des nouvelles de Palwasha et d'Anissa. En jeu, entre autres, une conférence à Dubaï, à la Fondation des Femmes, à suivre donc toutes les semaines sur France Inter. Et maintenant, chut, un loup qu'on dirait pas que c'est un loup. C'est pour ça qu'il est dangereux, surtout. Miette habite dans une joyeuse maison avec sa famille. C'est une maison qui sent bon, avec des plantes et des décorations accrochées au mur. On y invite les copains, on y joue aux billes et aux cartes, on y fait des dîners avec de bons petits plats. Miette adore sa maison. Seulement voilà, personne ne le sait, mais il y a le loup. Il est là, dans la famille. C'est un homme, mais Miette trouve que c'est aussi un loup. Elle seule peut voir ses oreilles et sa queue, car elle n'existe pas en vrai. Personne ne peut deviner que c'est aussi un loup parce qu'il est très gentil. Tout le monde l'aime bien. Il invente de super jus glacés et il adore faire des blagues. C'est impossible à deviner. Mais Miette le sait, elle. Car parfois, quand personne ne fait attention ou quand tout le monde dort, il change. Il rôde autour d'elle comme un loup. Son œil devient perçant et discrètement, à pas de loup, il vient embêter Miette. Il veut que Miette le touche. Il veut que Miette le caresse. Il veut la caresser aussi avec ses grosses pattes. Toutes ses caresses la gênent. Elle ne comprend pas bien. Le loup dit que c'est un jeu, que c'est normal. Il dit que c'est pour faire plaisir à Miette parce qu'il l'aime. Mais il ment, le loup, il ment. C'est pour son plaisir à lui. Miette le sent. Le loup dit que c'est un secret bonbon. Mais Miette trouve que c'est un secret poison. Elle n'est pas à l'aise, elle trouve ça bizarre. Ça la met un peu en Miette. Elle a envie d'en parler à quelqu'un, mais elle a honte et elle a peur, très peur. Miette ne veut pas que tout le monde soit triste. Pas même le loup. C'est difficile à comprendre, mais Miette aime le loup. Il fait partie de sa famille. Alors elle ne dit rien. Alors, est-ce que Miette a fini par parler? Est-ce que quelqu'un a pu arrêter le loup? Est-ce que la petite fille a été protégée? Vous allez le savoir très vite.
France Inter. Julia Foyce. Unique en son genre.
Bonsoir Maylane.
Bonsoir.
Vous êtes chanteuse, dessinatrice et puis autrice, puisque ces mots, ce que je viens de lire, ce sont les vôtres. Et cette musique-là qu'on entend, Portico Quartet, c'est celle que vous écoutiez quand vous les couchiez sur le papier, quand, pour les nourrir, les illustrer, vous dessiniez Miette, Miette et sa frange, Miette et ses couettes, Miette et le loup. C'est qui ce loup et puis c'est quoi?
Alors ce loup, c'est pas vraiment un loup en fait. C'est un homme, mais c'est Miette qui trouve que c'est un loup. Parce qu'il agit comme un loup, en fait. Il agresse Miette, c'est un prédateur, c'est son agresseur, c'est un incesteur. C'est un membre de sa famille, voilà. On ne sait pas trop qui c'est.
Et ce loup, c'est aussi ce projet dont vous êtes à l'origine. C'est à la fois un livre destiné aux 4-9 ans, c'est un morceau, une très jolie chanson qu'on entendra en même temps. On n'arrive pas à dire jolie parce que oui, c'est joli et c'est violent. On va dire à la fois. C'est une vidéo aussi, ce projet, une campagne de prévention qu'on entendra. Le ton, il est comme dans ce texte que j'ai lu, à la fois clair, direct, simple. C'était ce que vous vouliez exactement. Vous vouliez rentrer dedans, dire les choses, enfin parler.
Oui, oui, oui. Mon but, c'était de prévenir les enfants, de les informer. Donc c'est pour ça que vraiment dans ce livre, et puis dans cette vidéo, et puis même dans cette chanson, j'ai eu besoin de parler de ce dont je voulais parler, ce dont je n'avais jamais réussi à parler auparavant, l'inceste. Et voilà, j'ai voulu être claire avec les enfants. Il y a aucune place ni à l'imaginaire ni à la magie, contrairement à beaucoup d'histoires pour enfants. C'est un livre qui informe.
Alors, on le fait rarement ici, mais quand même ces chiffres. Hein. Un Français sur 10 a été victime d'inceste. Au moment où on se parle, là, maintenant, 2 enfants par classe vivent cet enfer-là. Parmi eux, il y avait vous, Maylan. Et comme beaucoup, le temps le plus long était celui du silence. Qu'est-ce que ça fait de se mettre à parler, de se mettre à dire?
Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, j'ai parlé assez tôt. J'ai parlé quand j'avais 13 ans une première fois. Puis ensuite, je n'ai plus parlé. Et ensuite, j'ai reparlé quand j'avais environ 30 ans. Je ne sais pas, enfin, beaucoup plus tard. Et je pensais que dans mon analyse, ça allait être... Enfin, je pensais que... En en parlant à mon psy et en travaillant sur ce sujet, ça allait être fini comme ça. Et en fait, avec ce projet, mon but, c'était pas d'en parler, c'était vraiment d'informer les enfants. Mais finalement, à le faire, j'étais obligée d'en parler tous les jours. Et ça, je m'en étais pas rendu compte, mais ça a été extrêmement libérateur.
Qu'est-ce que ça a changé en vous? Par exemple, si je vous tends ce miroir, la femme que vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir de différent? Qui vous voyez maintenant quand vous vous regardez?
Je me vois moi, mais c'est vrai que c'est différent. Je me sens apaisée en fait. Je crois que c'est ça. Je crois que si on m'avait posé cette question avant, j'aurais été toute mal à l'aise. J'aurais voulu dire un truc malin et puis... En fait, là, je suis juste contente. En plus, je suis enceinte, donc j'ai toutes les cellules qui sont bien en place. Les beaux cheveux.
Qu'est-ce qui pourrait faire mauvais genre chez vous?
Alors, ça, je pense que c'est mon langage de charretière.
C'est vrai?
Ouais.
Vous parlez très très mal.
Oui, oui, donc là, je vais essayer de faire attention. Mais oui, oui, parfois, ça impressionne.
Et c'est un mauvais genre que vous cultivez? Ou dont vous avez parfois un peu honte?
Moi, je suis assez détendue avec ça, mais quand je m'entends ensuite, je peux en avoir un peu honte, finalement.
Alors, on entendra ce soir certains de vos très gros mots, ceux qui m'entendent ont fait taire sans doute le plus gros d'entre eux, de ces mots qui râpent la gorge quand ils sortent, mais de ces mots qui sauvent, qu'on se les dise, qu'on les lâche, qu'on les murmure ou qu'on les chante.
T'es dans cette pièce. Dans cette pièce où je me cache, je suis prise au piège, surtout je suis prise au piège, surtout quand je me lave. Je ne suis pas libre sous, je ne suis pas libre sous. Et sur le qui vive, toujours, et sur le qui vive, toujours, ça me gâche. Papa, fallait papa, venir trop près de moi. Maintenant, je sais plus très bien qui t'es. Sous cet œil, tout, je le vois lourd. Un jour par là.
Meylan, quand vous l'entendez, ce loup, chanté par vous, vous vous dites quoi ?
Je suis hyper contente. Cette chanson, elle est assez ancienne. Je l'ai écrite en 2013. Et je suis vraiment trop contente de sa forme d'aujourd'hui, la façon dont elle est arrangée, la façon dont elle est chantée, les mots qui ont été choisis. Au début, elle était en anglais. C'était difficile de comprendre ce que je disais. Et là, j'ai bien réussi à écrire un texte qu'on comprend bien.
C'est important, ça, de plus se cacher derrière l'anglais. Quitte à dire, autant dire vraiment.
Ouais, oui. Je crois que c'est mon premier morceau où on comprend quelque chose.
Alors, pour comprendre comment il a pu rentrer dans votre vie, ce loup, comprendre surtout comment vous l'en avez sorti et mis en boîte, mis en chanson, sans doute faut-il tout reprendre à zéro. Là, vous êtes sur France Inter. On part à Paris, 18e arrondissement, un certain 29 juin 1982.
Unique en son genre.
Vous naissez, pour planter sommairement le décor, hein, mais là, dans une famille assez baroque, on va dire. Votre mère est costumière et droite, nous avez-vous dit en préparant cette émission. Votre père est artiste peintre tendance punk. Mais encore, qui étaient vos parents ?
Mes parents sont super. C'est des gens ouverts, des gens super en avance, avec peu de principes à l'ancienne. Ils sont vraiment dans le futur.
Parce que votre père, Kiki Picasso, fait partie d'un collectif de graphistes très à l'avant-garde,
oui,
à l'époque, au début des années 80, qui secoue pas mal, hein, de tous les côtés, que ce soit, oui, et l'art et la politique et la rue, enfin tout.
Ouais, avant-gardiste dans son art et dans sa façon de penser, vraiment, dans l'égalité homme-femme, dans plein de choses. C'est des gens très très ouverts. Ma mère, c'est pareil. Elle a toujours été très intéressée par être soi-même. Par rapport à notre éducation, elle a lu tous les Françoise Dolto. Elle était vraiment à vouloir qu'on se cherche et qu'on se trouve, qu'on soit nous-mêmes et qu'on ne suive pas le chemin des autres. Voilà, c'est des gens vraiment dont je suis fière d'être la fille.
Avec vous, il y a toujours Romolo, grenouille en peluche dont on entend le cœur. À 4 ans, vous volez du maquillage dans un magasin. C'est votre première bêtise. Les autres, les plus grosses, viendront un petit peu plus tard. En attendant, quelle petite fille est-ce que vous êtes ?
Quand j'étais petite, j'étais très timide.
Ouais.
Ouais. J'étais très très timide. On me disait toujours allez, vas-y, détends-toi. Et puis ça me rendait encore plus timide. J'étais dans mon monde. J'aimais les toutes petites choses, les tout petits mondes. J'imaginais disparaître. Je me souviens très bien. Pour moi, c'était très difficile de dire bonjour. Voilà. Et puis j'étais tout le temps dans ma tête, tout le temps inventer des histoires, inventer des chansons.
Alors autour de vous, il y a un grand frère, Kim, on en reparlera de ça aussi. Et puis, enfin de lui, pardon. Et puis un grand-père. Très chouette grand-père, hein. Tout le monde l'aime bien. Quel genre d'homme c'est, votre grand-père ?
Mon grand-père, c'était un scientifique, un chercheur. Il bossait dans une grande boîte de recherche de chimie. C'était un grand-père très gentil, qui nous faisait des jus de fruits, qui nous apprenait à faire du vélo, qui s'occupait beaucoup de nous, et qui était un grand-père génial, quoi. Je crois que comme père, il était aussi génial, un petit peu plus violent peut-être, un petit peu plus caractériel, mais avec nous, c'était vraiment jamais le cas, jusqu'à ce que, voilà, il y ait ces agressions.
Vous avez 7 ans à ce moment-là.
Ouais, j'avais 7 ans, j'ai daté ça quand j'avais 7 ans, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il m'a fait des attouchements. Mmh. Voilà.
À 7 ans, où ça a duré ? Ça s'est étalé sur plusieurs années ?
Non, c'était assez court, c'était simplement quelques épisodes, mais ça a suffi en fait à me Je le dis toujours comme ça, mais à me renverser le monde, quoi. À partir de ce moment-là, j'avais
peur. Rien n'est à sa place, rien n'est au bon endroit. Ce qui doit vous donner de l'amour vous offre une violence incommensurable parce que.
Ouais. À partir de ce moment-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur quand j'allais chez eux. Et puis, Et puis j'avais plus confiance. Et puis finalement, j'ai commencé à ne plus avoir confiance en grand monde, je crois.
Alors Miette tente d'en parler aux adultes autour d'elle, qui entendent mais qui ne font rien. Est-ce que ça a été votre cas ?
Oui. En fait, j'en ai parlé quand j'avais 13 ans. Je me suis lancée après 2 semaines de crise de larmes, à ne plus savoir où j'en étais. J'en ai parlé à ma mère.
6 ans après, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour qu'à 13 ans, vous vouliez en parler ?
Je sais pas trop. Je crois que c'est l'adolescence. L'adolescence où tout d'un coup, on a les hormones, plein de choses. On a des émotions, des torrents d'émotions qui débarquent. On va pas bien, on sait pas pourquoi, on cherche. Et puis j'avais ce sentiment grandissant que ça devenait quelque chose, un vrai gros problème. Je me souviens que j'avais aussi vu l'âme des guerriers à cette période-là, mais certainement pas que. Des indices que j'avais glanés. En fait, dans l'âme des guerriers, il y a une scène où il y a la jeune fille qui se fait violer par un ami de son père. Et en fait, c'est une scène qui m'a vraiment marquée dans ce film où en fait, à un moment, elle rentre à la maison et il y a l'ami du père qui est là. Et il y a le père qui dit « Viens embrasser tonton. Allez, viens embrasser tonton. » Donc il commence à l'engueuler parce qu'elle n'a pas envie d'embrasser tonton. Et en fait, c'est un truc que je connaissais. Parce que moi, bah, toutes les fêtes de famille et à tout... Tous les week-ends, il fallait que j'aille embrasser mon grand-père. Et c'était quelque chose qui était assez violent et qui était, que j'avais pas envie de faire. Et ça, ça m'a vachement marqué, ce truc-là.
Donc vous en parlez à votre mère ?
Ouais.
Qui vous dit quoi ?
Eh ben, ma mère, ce jour-là, m'a juste dit « moi aussi ». Et puis voilà. Et puis c'est tout.
Et c'est tout. Et ça s'arrête là. Et on parle plus. Chez vous, souvent la musique parle à votre place, on se tait, on écoute, on partage l'histoire de Luca. Par exemple, le petit garçon qui vit juste au-dessus, à l'étage. Parfois ça crie chez lui, mais chut, on dit rien. On fait comme si tout allait bien. Qu'évoque cette chanson de Suzanne Vega pour vous, Maylan ?
Cette chanson, pour moi, c'est la maison, c'est quelque chose de safe. Cette chanson, c'est une de mes préférées. Tout l'album, d'ailleurs, de Suzanne Vega. C'est la musique que mes parents nous laissaient quand ils nous laissaient tout seuls chez eux.
Mais ils vous laissaient cette chanson
chez nous, je veux dire. Bon, je ne sais plus trop, mais ils étaient assez détentes. Hein. Mais nous, on n'était pas du tout stressés avec ça. Et puis voilà, mais j'aime aussi beaucoup cette chanson pour son thème, j'aime qu'elle se mette dans la peau de ce petit garçon, je trouve ça super beau, je trouve que cette chanson est belle.
Alors moi elle m'évoque la mélancolie et le silence qui peut-être ont été les vôtres à certains moments de votre enfance. Votre enfance qui se mue en adolescence, on le disait, premiers émois, premières amours, il y aura d'abord Gilles en 6e, un petit blond tout bronzé, revenu d'un an à Tahiti. Ouais, mais le bronzage est parti, alors vous aussi. Vous êtes mise à accrocher des posters de Bruce Willis dans votre chambre. Vous êtes mise à rêver. Blague à part, quel rapport entretenez-vous, adolescente, avec les garçons, avec l'amour, avec la sexualité, Maylan ?
Ben, je crois que ça a été plutôt bien. J'ai eu des petits copains. J'ai eu des histoires.
Malgré assez tôt. Ça, avec beaucoup de guillemets, malgré ce truc-là, dont vous disiez tout à l'heure que vous sentiez que quand même il y avait un truc qui n'allait pas.
Ouais, malgré ça, ouais, c'était deux choses différentes. Je crois que c'est effectivement toujours finalement pas avec l'amour, mais avec le sexe qu'il y a quelque chose qui peut devenir bizarre. Je saurais pas trop dire si j'ai eu des séquelles. Je pense que oui, mais...
Mais cette peur dont vous parliez, cette perte de confiance,
ouais.
Est-ce que c'est quelque chose qui a pu impacter vos relations amoureuses, par exemple ?
Je crois que ça va, parce que j'étais avec des gens de mon âge, en fait.
Ouais.
J'ai été vraiment... alors, c'est un peu dur hein, à dire tout d'un coup, comme ça, de but en blanc, mais j'ai été longtemps dégoûtée par les vieux hommes, en fait. J'ai toujours trouvé que c'était tous des gros pervers, qu'ils n'avaient pas intérêt à me regarder, ni le droit. Et je sais que ça, c'est un truc un peu entraviole que j'ai, hein, parce qu'il y en a plein qui sont vraiment sympas. Mais j'avais un grand dégoût pour les personnes âgées de type masculin.
Alors, vous êtes plus à l'aise avec vos pères, PIRS, évidemment. Hein, au lycée Hélène Boucher, vous ennuyez, c'est-à-dire, mais alors terriblement, vous n'avez pas 15 ans quand vous dites que pour vous, c'est plutôt la nuit que ça va se passer. Vous sortez en boîte et vous dansez.
Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo, yo, my men and my women, don't forget about the dean. This is not the most the king, yo. It's about a thing, yo,
feel
yo.
Real good when your hands in the air and lick two shots in the atmosphere.
Since you were looking for your friend, the one you let hit it and never called you again. Remember when he told you he was about to Benjamins? Yeah. You act like you and him, they give him a little trim to begin. Now you think you really gonna pretend like you wasn't down and you called him again. Plus when you give it up so easy, you ain't even fooling him. If you did it then, then you probably can. Talking out your next.
Que vient donc faire Lauryn Hill dans votre vie, Maylan?
Elle vient me montrer comment on peut être une femme forte qui rappe, qui traîne avec des mecs, qui est cool, qui a une voix de ouf, qui est super belle. Ça m'a traumatisée cette arrivée de Lauryn Hill dans le paysage. J'étais comme une folle. Cette chanson, je la connais par cœur, je les connais toutes par cœur.
Alors vous-même, vous êtes très belle. Quel rapport est-ce que vous entretenez à cette époque-là avec votre beauté, avec votre corps qui se transforme avec cette féminité magnifique qui apparaît?
C'est gentil. Je crois qu'à ce moment-là, j'étais OK, j'étais bien, j'avais plein de copines, on sortait beaucoup. J'étais plus du tout cette petite fille très timide. Au contraire, je travaillais à être forte. C'était vraiment mon but dans la vie, c'était de ne plus être cette petite fille.
Il fallait être costaud, quoi.
Il fallait être costaud. Je voulais plus être vulnérable. Et j'étais même un petit peu trop rentre dedans parfois. Dès qu'il fallait s'embrouiller, j'étais trop contente de m'embrouiller, de montrer que moi, je me laissais pas faire. Il y avait cette pote avec qui. On sortait tout le temps, elle faisait le mur parce qu'elle avait pas le droit, moi j'avais le droit. Et du coup, on était tout le temps dehors la nuit et tout. Puis il y avait un mec qui lui avait touché les fesses dans la rue. Et puis elle avait oh comme ça tout d'un coup, elle était choquée et tout. Et puis moi j'étais attends quoi, c'est qui, c'est lui? OK. Et je lui ai marché derrière le mec pendant une demi-heure en lui gueulant dessus. Comme une folle. Et donc voilà, j'étais plus la même, clairement.
Vous vous en emparez de cette féminité, vous l'habillez, ce corps, vous cousez vous-même vos vêtements, vous rêvez de dessin et de mode. Oui, mais votre frère Kim, lui, rêve de cinéma et pour son premier film, il voudrait votre voix. Alors vous nous raconterez, Maylan, ce soir en empreinte vos pas, unique en votre genre. Vous êtes notre invité.
I'd like to dedicate this to all of the Creator's righteous children. I have some food in my bag for you. Not that edible food, the food you eat. No, I have some food for thought. Since knowledge is infinite, it has infinitely fell on me. So, it was a stormy night. You know the kind where the lightning strikes. And I was hanging out with some of my artsy friends. Ooh, you. The night was long, the night went on. People cooling down to the break of dawn. Incense was burning, so I'm feeling right. I picked my friends like I picked my fruit. And Annie told me that when I was only you. I don't walk around trying to be what I'm not. I don't waste my time trying to get what you got. I work at pleasing me, cause I can't please you. And that's why I do what I do. So flash free like a willow tree. Do we, do we, do we? And if you don't wanna be down with me, you don't.
Gravity keeps moving like a rolling stone. I can't control the soul flowing in me. Ooh wee. See, I picked my friends like a big fruit. Again, he told me that when I was only you. I don't walk around trying to be with them night. I don't waste my time trying to get what you got. I work it pleasing me cause I can't please you. And that's why I do what I do. My soul flies free like a willow tree.
Erykah Badu, Apple Tree, elle a quelque chose de spécial pour vous, cette chanson, Maylan, mais quoi?
Je la connais par cœur. C'est comme Lauryn Hill, quoi. Les deux, elle et Erykah Badu.
Tiens, vous la repassez en boucle?
Ouais, en fait, c'est les chansons qui m'ont permis de ciseler mon flow, d'apprendre à chanter vite en anglais, de jouer avec les mots aussi, ça m'a beaucoup appris en écriture. C'est des morceaux techniques un peu.
Alors, on la garde avec nous, Erykah Badu, dans la tête, dans le cœur et pour longtemps. Bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur France Inter.
France Inter, unique en son genre.
Sur ce chemin qui est le vôtre, Maylan, nous voici donc en 2004-2005. Votre frère Kim Chapiron travaille sur son premier long, Shaitan, et il embarque toute sa famille, toute sa tribu avec lui. Vous mettez un peu la main au costume, un peu la main à la musique, reprenant un morceau de rap volontairement trash du groupe La Caution. Vous prenez surtout un malin plaisir à dire des horreurs de votre plus jolie voix.
Tu viens d'où? 15 coups dans la gueule, j'ai la main lourde, je déterre ta grand-mère et la viole comme une chienne. Et si t'es pas content, je viole ton père. Prêt pour la douche, je te pisse dessus et je te brise le cul. Petit fils de pute, je te fiste, nul ne te crispe plus.
Morceau produit par le très regretté DJ Mehdi, s'il vous plaît. C'est votre tout premier tube, Maylan, celui qui vous fait connaître du grand public. Qu'est-ce que cette chanson représente pour vous?
Elle représente beaucoup de super souvenirs, la période Courtrajmé, la période Shaitan, Mehdi, bien sûr. C'est devenu un truc un peu presque culte. Hein. Il y a beaucoup de gens qui me ressortent ce morceau et qui la connaissent par cœur. Et c'est leur morceau de leur jeunesse avec leurs potes. Ils la jouent à la guitare. C'est mon tube, quoi.
Alors, Contre-Jamais, c'est un collectif d'artistes où on retrouve aussi Romain Gavras, Mouloud Achour, et puis Oxmo Puccino, et puis Vincent Cassel, ou Mathieu Kassovitz au milieu. Vous êtes la seule fille. Ils vous apportent quoi, ces garçons? Le droit à l'audace, ou une forme de sécurité, une forme de protection?
Un peu des deux, je crois. Un peu des deux, je sais pas. C'était assez cool, ouais. Et en même temps, c'était une bande de grands frères, donc il y a des moments où j'avais envie de dire, ouais, bon, bah ça va, c'est bon, vous me laissez un peu. J'ai l'impression qu'ils se donnaient tous un peu ce rôle-là aussi.
De vous surveiller de...
Ouais, peut-être. Mais non, c'est une super bande, ils sont tous géniaux.
Un temps, vous arrêtez la musique, vous suivez une formation de stylisme, gagnez un concours, montez votre propre marque, mais on y reviendra. Vous revenez ensuite à la musique. 2012, un album solo, Meylan, joli succès. Alors, atelier d'écriture à Los Angeles. En 2015, alors, un deuxième album, Autopilote, en 2018. Sur cet album, vous écrivez des choses comme « Attends, là, je suis un peu emmêlée » ou « Je rouvre des plaies guéries ». Vous sentez à nouveau qu'au fond de vous, il y a quelque chose qui ne va pas à ce moment-là?
Ouais, tout mon album, Autopilote, c'est moi qui est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. On ne comprend rien, l'album, c'est le bordel. En plus, c'est un bordel tout en électro, avec beaucoup de force. Mais c'est un album hyper vulnérable, où je suis en train de décrire mes failles et d'essayer de commencer à les comprendre, en fait.
Dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous vous mettez, vous aussi, à avoir des comportements que vous ne comprenez pas ?
Ouais. C'était vraiment en 2015 que j'ai perdu les pédales. J'ai fait des trucs un peu incohérents. Je sentais que j'étais...
Comme ?
Par exemple, il y avait cette scène un peu comme dans les films, un peu comme Britney Spears en fait, où je m'étais coupé la frange, mais nulle quoi, vraiment. J'avais fait ce geste où, en fait, j'étais tellement, je sais pas, comme un espèce de plus savoir où me foutre, d'avoir envie d'être autre, d'avoir envie d'être. Je me suis coupé une mèche de cheveux, mais d'une façon vraiment naze. C'était carrément de la destruction, quoi.
Vous faites le lien à ce moment-là entre ce que vous ressentez et les événements du passé?
C'est le moment où je me suis dit, ok, là, je gère plus toute seule. Parce que j'ai toujours géré toute seule en écrivant. J'avais un carnet où j'écrivais ce que je ressentais. Et jusqu'alors, ça, écrire, ça m'avait permis de m'apaiser. Juste de poser des mots sur ce que je ressentais, et puis ensuite de les voir, et puis de voir qu'ils étaient pas si graves, ça m'aidait.
Ouais.
Mais là, je m'aidais plus moi-même. C'est là que j'ai commencé à me dire, ok, faut que je commence une analyse, et je crois que ce sujet-là peut être un départ.
Vous entamez cette analyse. Est-ce que le fait de mettre des mots dessus devant quelqu'un ouvre le robinet à parole? Est-ce que du coup, vous me remettez à parler de cette histoire à vos proches, à votre famille?
Pas trop. Par contre, en analyse, beaucoup. Et presque uniquement. C'est le sujet principal de mon analyse. Et mon analyste... je sais pas si c'est lui qui me remet toujours dedans, mais en tout cas, on parle presque que de ça. Et je me rends compte que ça, c'est un énorme trou de silence et qu'il faut en parler beaucoup.
Il faut dire qu'il y a votre chemin à vous et puis celui que tout autour semble faire la société avec MeToo depuis 2017, un témoignage en appelant un autre, une prise de parole entraînant toutes les autres. Charlotte Pudlowski, fondatrice de Louis Média, a tendu son micro à ces femmes qui, comme vous, comme sa mère, avaient subi l'inceste. Ça donne une magnifique série de podcasts, ou peut-être une nuit, et ça donne ceci.
Ma mère m'a toujours beaucoup intéressée, comme nous passionnent les gens qu'on aime. Je l'aime, comme Romain Gary aimait sa mère, grâce à la promesse de l'aube que j'ai reçue moi aussi. Je l'aime tellement que j'ai tout le temps peur qu'elle meure. Je l'aime comme on aime seulement ceux dont on sent qu'ils ont tout donné pour nous et tout rendu possible. Alors, quand un beau jour elle m'a dit que son père avait essayé d'abuser d'elle pendant des années, essayer c'était ses mots, c'était pas les bons, il l'avait agressée, mais c'était les siens, je n'ai pas été plus surprise que ça. Ce qui m'a surprise, qui donnait pourtant sens au vide, c'est le silence. Bien longtemps après, elle m'a dit
« De toute façon, c'était quelque chose d'impossible à raconter, que ce soit par fragments, que ce soit dans la globalité, c'était quelque chose dont je ne pouvais pas parler. »
J'ai commencé à poser des questions à ma mère. On était à la campagne, elle arrosait des fleurs. Je lui ai dit « Ça m'intéresse, ce sujet de l'inceste et du silence. J'ai envie de travailler dessus. » J'ai dit « Je voudrais écrire ton histoire. » Et elle m'a répondu « Pas tant que ton père sera en vie. »
ou peut-être Une nuit est aujourd'hui, signalons-le. Un livre aussi édité chez Grasset. Vous les avez beaucoup écoutés, ces histoires, hein, Mélane?
Ouais.
Ce podcast-là.
Ouais, ouais. Dès que je l'ai découvert, j'ai écouté au moins 3 fois de suite. Et depuis, ouais, encore plusieurs fois.
Pourquoi?
Parce que tout d'un coup, c'était un puits d'informations immense. C'était plein de gens qui parlaient du sujet qui était en train de m'intéresser. Et puis que ça me faisait prendre de la hauteur, en fait, pour une fois, pour la première fois. J'arrivais à étudier ce problème, l'inceste, chose que j'avais jamais fait avant. C'est-à-dire que j'avais jamais ouvert un bouquin, jamais rien lu dessus, tellement j'étais embourbée dans mon truc.
Alors, parmi les prises de parole qui provoquent chez vous des déclics, il y a celle d'Adèle Haenel, oui, il y a Camille Kouchner. Est-ce que c'est ces femmes-là et toutes les femmes ensemble et toutes les victimes d'inceste ensemble qui parlent qui font qu'à un moment donné, vous trouvez la force d'aller voir votre grand-père?
Je crois pas. Non. Alors, qui me donne la force de faire ce projet, certainement.
Ouais.
Mais parler à mon grand-père, c'était mon process. Mmh. C'était vraiment ma mission. C'était la mission ultime de cette réflexion d'analyse. Et il fallait que je le fasse tôt. Je l'ai fait avant qu'il meure, en fait. Il fallait que je le fasse vite avant qu'il meure. Et du coup, j'ai réussi à le faire. C'était vraiment pas facile. Et j'ai de la chance, ça s'est bien passé.
Il vous a dit quoi?
Il a pas nié, en fait. C'était ça qui était le plus important, mmh, pour moi. J'avais peur qu'on vive encore une situation étrange et puis que ça me rajoute un truc tordu, bizarre, à analyser pour les 15 prochaines années. Ça n'a pas été le cas. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Je te demande pardon ».
Ce qui est extrêmement rare.
Je crois, ouais.
Est-ce qu'à partir de cette demande de pardon-là, vous êtes allé du coup voir d'autres membres de votre famille pour élargir ce cercle de la parole, pour qu'ils vous entendent enfin, puisque votre grand-père, lui, vous avait entendu?
Non. J'ai fait mon petit truc dans mon coin parce que on n'en parlait pas, en fait. Et je crois qu'il n'y avait pas grand monde qui avait envie d'en parler avec moi. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai fait ce livre d'une façon inconsciente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je fais ce livre, où je fais ce livre tous les jours pendant 1 an et demi, on va être obligé d'en parler parce que moi, je pense qu'à ça. Et je crois que c'est ça, c'est mon inconscient, une fois de plus, qui a organisé ça, qui a organisé le fait de me donner le droit d'en parler tous les jours, à tout le monde.
Oui, parce qu'on est en juin 2020, à l'issue du premier confinement, c'est là que vous mettez à écrire, à dessiner, à chanter, ça donne un livre, une chanson. Mais le Loup, c'est aussi une vidéo de prévention à destination des enfants.
Attention, quand un plus grand ou un adulte veut toucher nos parties intimes, les regarder ou les utiliser pour son plaisir, quand il veut qu'on regarde ou qu'on touche ses parties intimes, ça s'appelle une agression sexuelle. Et ça, c'est interdit et puni par la loi. Il n'a pas le droit de le faire. Quand c'est une personne de la famille qui le fait, ça s'appelle l'inceste. Moi, je connais ça parce qu'un adulte de ma famille voulait toujours me caresser les parties intimes. Quand personne ne faisait attention, il venait m'embêter discrètement, un peu comme un loup. C'était bizarre, je me sentais mal à l'aise. Il essayait de me faire croire que c'était pas grave et que c'était normal. La plupart du temps, c'est quelqu'un qu'on connaît bien qui fait ça, comme un ami ou une personne de la famille. Donc c'est facile pour lui de nous faire croire tout ce qu'il veut. Mais c'est faux, c'est pas du tout normal, c'est même interdit. Quand on sent quelque chose de bizarre ou qui nous gêne, on a souvent raison.
Ce sont vos nièces qu'on entend, Mélane, ça veut dire que ça y est, maintenant, la parole circule dans la famille?
Oui, on peut dire ça. C'est ma nièce et mon fils, Miette et Balthazar, dans cette vidéo. Oui, alors là, maintenant, j'en parle vraiment à tout le monde, j'en parle même aux enfants. Et d'ailleurs, c'était peut-être le but ultime, c'était de parler aux enfants, ouais, d'ailleurs.
Vous avez réussi à trouver les mots pour parler à vos propres enfants?
Ouais. J'ai mis du temps, mais je l'ai fait quand j'avais bien avancé mon process de bouquin et que j'avais bien finalement déjà parlé de tout ça en général.
C'est-à-dire qu'en plus, il valait mieux, puisque vous êtes l'un des visages de la campagne de la Commission indépendante sur l'inceste, la campagne qui est diffusée actuellement sur les réseaux sociaux et à la télévision. Ensemble, sortons du silence et on vous voit dire face caméra, j'avais 7 ans, il en avait 63.
Oui.
L'idée, c'est quoi? C'est de se dire, quitte à le faire, autant le faire jusqu'au bout?
Bah, un peu, ouais. Ça, c'était pas prévu. On me l'a proposé pile à la sortie du livre de faire cette campagne. J'ai un peu eu peur parce que justement, c'était pas mon idée de mettre ma tête et puis de dire je suis victime. Je voulais plutôt proposer un outil et puis je fais cet outil parce que je suis victime. Voilà.
Mais on sait que ça marche aussi par identification. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un adulte va dire face caméra, ça m'est arrivé, ça veut dire qu'il y a potentiellement des centaines, voire des milliers d'enfants qui vont regarder, qui vont se dire, ok,
Exactement.
J'ai pas avoir honte, quoi.
Exactement, c'est ça. Et en fait, je suis hyper contente de le faire. Ça a déjà aidé plein de gens. Et puis, mon projet, c'est combattre le silence. J'allais pas garder un silence nulle part, évidemment.
C'est combattre le silence et c'est aussi un nouvel album en préparation pour 2022.
Oui, oui, oui.
Allez, Maïlan, on a encore quelques jolies minutes à passer ensemble. Alors, on en profite. Et ça, c'est Lil Nas, Jack Harlow, Industry Baby. Baby, bet, ay, couple racks, ay, couple Grammys on him, couple plaques, ay, that's a fact, ay, throw it back, ay, and this one is for the champion, ain't lost since I began, yo, funny how you said it was the yeah, yo, then I went did it again, yo, I told you long ago, on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over. Need a couple number ones. Need a pack on every song. Need me like one with Nicki now. Tell a rap nigga I'll see ya, huh? I'm a pop nigga like Bieber. I don't fuck bitches, I'm queer, huh? But these nigga bitches let me deal, yeah. Ayy, holy do it. I ain't fall off, I just ain't release my new shit. I blew up and everybody tryna sue me. You call me Nas, but the hood call me Doobie. And this one is for the champion.
Track record so clean, they couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy, y'all shouldn't have let the world gas me. It's too late cause I'm here to stay and these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boyfriend with my handprint on her ass cheek. City talking, we taking notes, tell him all to keep making posts. Wish he could but he can't get close. OG's so proud of me that he choking up while he making toast. I'm the type that you can't control, said I would then I made it so. I don't clear up rumors. Ay, where's y'all sense of humor? Ay, I'm done making jokes cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I done peak in high school, I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these pussies walking around like they ain't losers.
I told you long ago on the road, I got what they waiting for. Get your soul, just tell them I ain't laying low. You was never really rooting for me anyway. When I'm back up at the top, I wanna hear you say, you don't run from nothing, dog. Get your soul, just tell them that the break is over.
Lil Nas, que vous retrouvez bien entendu dans la liste de nos références musicales sur franceinter.fr à la page d'Unique en son genre. Et c'est à Djoubaka, notre programmateur, qu'il faut dire merci. Oh oui!
Unique en son genre, Julia Foyce.
Et maintenant, imaginons un monde où on puisse se réinventer, où les sexes ne seraient pas assignés à résidence, où les genres seraient mouvants, on en ferait ce qu'on veut, ce monde-là. C'est le nôtre, le vôtre, le masculin tangle, le féminin se redessine, les contours du genre se floutent, on respire un peu mieux quand même. Alors, en toute subjectivité, Maïlan, quel est l'objet qui raconte au mieux la femme que vous êtes aujourd'hui?
Alors,
ah, on entend le petit tintement, vous pouvez faire tinter dans le
oui,
micro.
Oui, bien sûr, c'est justement pour ça que j'ai choisi celui-là. J'ai choisi celui qui avait un plus beau son. En fait, ça, c'est un objet parmi tant d'autres. C'est un bijou afghan.
Oui.
Il fait partie de ma grande collection de bijoux ethniques. Je pourrais ouvrir un quai-branly à moi toute seule avec tous ces bijoux. J'ai un trésor de pirates que je suis allée chercher dans tous les pays du monde.
Et vous, Vous, celui-là, vous êtes allé le chercher vous-même ?
Alors, celui-là, celui-là, je suis allée le chercher à Londres, c'est un peu moins loin. Mais par contre, je suis allée dans le Guangxi, qui est une province de Chine, dans le sud, où il n'y a que des Miao. Les Miao, c'est une minorité ethnique de Chine, où il y en a aussi au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Je suis allée au Vietnam, je suis allée en Thaïlande, je suis allée au Cameroun, je suis allée dans plein de pays aussi, en Arizona, chercher des bijoux d'Amérindiens. Et en fait, ça correspond à une période de ma vie où je suis devenue femme, en fait, quand j'avais environ 18-20 ans. Et c'est le moment où j'ai commencé à faire des fringues avec ma pote et où on a exploré notre féminité au max. On a fait des fringues, on s'habillait. En fait, notre but, c'était d'être les plus belles du monde dans les cafés et de se la péter un max. et du coup, voilà. Et on était très inspirées par toutes ces femmes. Des minorités ethniques du monde.
Moi, mais surtout que vous êtes d'origine vietnamienne,
voilà.
Votre mère, et votre copine était russo-togolaise.
Elle était russo-togolaise, ouais. Et en fait, moi, j'étais trop contente de découvrir qu'au Vietnam, il y avait tous ces peuples hyper beaux, hyper thug, qui vivent dans les montagnes et qui sont sapés de dingue avec des broderies, des peintures, des bijoux et qui sont au champ et qui travaillent. Toutes les femmes de ces peuples sont des femmes très fortes, des femmes qui bossent, des femmes qui portent la mémoire, l'histoire, le savoir-faire, etc. Donc ça m'avait beaucoup plu, en fait, de devenir une femme reine forte, voilà, d'être...
Oui, il y avait quelque chose dans vos créations de très opulent, de très coloré, de
oui,
très mélangé.
Très c'était affirmé, ouais. Et on était toute une bande de filles, on habillait toutes nos copines, on faisait des défilés happening dans les clubs, et c'était des danseuses plus belles les unes que les autres qui dansaient de dingue. Et voilà, on était vraiment une espèce de bande de filles sapées, et c'était ça en fait, mon départ dans la vie.
Vous en parlez au passé parce que la marque n'existe plus, mais est-ce que c'est aussi parce que vous avez aujourd'hui un rapport à la féminité plus apaisée ou plus discret, ou si je vous décris colorimétriquement parlant, ce soir vous êtes en noir.
Oui, ça a beaucoup changé, effectivement.
Ouais.
Je crois que je suis peut-être moins dans le paraître là en ce moment. Ça dépend des jours.
En même temps, vous paraissez tellement avec ce si joli ventre rond que vous avez devant vous.
Je crois assez de volume comme ça.
Passons genre, c'est terminé pour ce soir. Merci infiniment, Mélane, pour Le Loup et pour tout. Le Loup, c'est un album aux éditions La Martinière avec la préface de Rada Hatem, fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis que nous avions reçue. Ici même, formidable, Rada Hatem. Il y a également un cahier à destination des parents pour ceux qui accompagnent l'enfant dans cette prise de parole. La psychologue s'appelle psychologue clinicienne
Coralie Dière.
La chanson du loup et la vidéo, vous les retrouvez sur ce site www.leloup.org. À signaler, parce que c'est maintenant ou jamais, des numéros très très importants à retenir. Allô Enfance en danger, c'est le 119 24h sur 24, 7 jours sur 7. Vous appelez victime ou témoin, vous appelez. Deux lignes d'écoute nationales également à retenir, 0805 802 804 depuis la France métropolitaine et depuis l'Outre-mer. C'est le 0800 100 811. Évidemment, appel anonyme et gratuit. Merci à toute l'équipe d'Unique en son genre, à la technique ce soir, Louis Audebert, Marie-Anne Crimbaud à la réalisation. Ophélie Vivier m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.